Ce matin, je vais commencer par la lecture d'un passage bien connu, Jean 6, versets 53 à 59. C'est Jésus qui parle. « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » C'est un passage difficile à première vue. Et pourtant, nous ne le lisons à l'occasion de la scène avec une facilité d'habitué. Ce passage des déclarations de Jésus ne nous étonne plus si nous sommes dans la foi depuis quelques années, et nous le croisons assez facilement avec cette autre image du pain que donne Jésus par ailleurs, et qu'il tire lui-même du livre du Deutéronome. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Oui, mais nous avons le recul. Or, lorsque Jésus avance ces mots devant son auditoire, ils ont une résonance incroyablement nouvelle. Et ils vont d'ailleurs avoir une conséquence directe. Plusieurs disciples ne vont pas supporter ces mots et vont quitter Jésus à ce moment-là. Alors comment en est-on arrivé là ? Ben, rembobinons un peu le film et faisons un petit retour en arrière. Tout ça, c'est une histoire de pain. Si. Elle veut passer, mais visiblement, elle n'a pas envie. Ah voilà, c'est ça. Tout ça, c'est une histoire de pain et d'un bout à l'autre. Chacun d'entre nous l'a expérimenté après une bonne marche en montagne, ben c'est ce que nous avons fait cet été avec Sylvie, notamment, après un bel effort, quelle que soit la nature de cet effort, eh ben, il y a deux choses qui n'ont pas de prix. L'eau, tout d'abord, et puis du pain frais bien croustillant pour le pique-nique. C'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant à ce moment-là. Et puis avec quelque chose dedans, c'est encore mieux. Mais si vous n'avez que du pain, et une grande faim, la seule odeur du pain frais suffit à vous faire saliver. C'est vrai ou c'est pas vrai? On a tous connu l'expérience. La veille du jour où Jésus prononce les paroles fortes que nous avons lues en introduction, il y a 5000 personnes qui salivent. Elles sont venues voir celui qui fait des miracles et elles salivent d'abord au sens figuré. Qu'est-ce qu'il va encore nous montrer, ce magicien? De quoi est-il encore capable? Mais elle salive aussi au sens propre, car c'est l'heure du repas. Et de plus, 5000 personnes ont fait l'effort de suivre Jésus dans l'ascension d'une hauteur modeste peut-être, mais quand même, il a fallu s'essouffler un peu pour le suivre. Et voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Philippe, qui accompagne Jésus, est originaire du coin. Alors, Jésus lui demande logiquement s'il connaît une boulangerie. « Où peut-on, dit Jésus, acheter du pain pour que ces gens aient à manger ?» Philippe connaît certainement un commerçant de proximité, mais lui, il a un problème d'intendance. Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Et vous connaissez la suite. C'est l'épisode de la multiplication des pains avec un pique-nique géant, si on peut dire. Et en plus, un bonus, il y a du poisson à mettre dans le pain. N'oublions pas que nous sommes près du lac de Tibériade, qui est riche en matière de poisson. Nous avons dit que c'était une histoire de pain, alors oui, décidément, c'est une histoire de pain, et elle continue le lendemain. La foule a été nourrie, on vient de le voir, et on ne sait combien de personnes dans son sein vont partir à la recherche de Jésus au cours de ce deuxième jour. On ne sait pas combien, le texte ne le dit pas, mais au moins une partie de la foule va le retrouver. Et nous assistons alors à une deuxième situation qui constitue un accompagnement pédagogique tout à fait particulier de la part de Jésus vis-à-vis de ses auditeurs. Je lis les versets 26 et 27. « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez eu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Je trouve cette parole de Jésus assez rude finalement. Que dit-il? Si je traduis, il dit « Vous ne comprenez rien à ce que vous avez vu. Tout ce qui vous importe en fait, c'est que vous avez pu manger. Et c'est pour ça que vous me suivez. » C'est sans doute juste, mais c'est dur à entendre. Et Jésus provoque et titille. Il ne caresse pas dans le sens du poil. Il éveille leur attention. Si je relis le verset 27, « Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Cette approche directe de Jésus, qui est questionnante, elle a de l'impact finalement. Jésus veut les amener ailleurs, dans une autre dimension. Au fond, ceux qui ont retrouvé la trace de Jésus le lendemain de la multiplication des pains, savent-ils vraiment ce qu'ils cherchent en courant après lui? Mais au moins Jésus a éveillé leur attention. La question suivante qu'ils posent montre bien qu'ils sentent qu'ils ont quelque chose à découvrir. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Ça y est, ça décolle. Ils ont quitté le terre-à-terre. Ils sont prêts à entendre autre chose que à table. La réponse de Jésus est laconique et elle est cinglante. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et d'ailleurs, notons que Jésus ne répond pas à la question « Que devons-nous faire ?» L'œuvre, ce n'est pas la vôtre. L'œuvre ou l'action, c'est celle de Dieu d'abord. C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Plus loin, Jésus dira « Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Et nous y reviendrons. Vous voulez accomplir les œuvres de Dieu? C'est Dieu qui œuvre, pas vous. Par contre, c'est à vous de croire, et c'est à vous de répondre, et c'est à vous de faire confiance. Alors on monte encore d'un cran dans la discussion qui suit, des preuves. Prouve-nous ce que tu dis, atteste par un signe miraculeux si tu veux que nous croyions en toi. Et franchement, est-ce que vous ne les trouvez pas gonflés? Est-ce que ce ne sont pas les mêmes qui la veille ont vu nourrir 5000 personnes et qui pourtant en redemandent? Que leur faut-il de plus? Il leur en faut encore. Il leur faut encore un signe. Je relis les versets 30 et 31. Quel signe miraculeux fais-tu donc, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert. Comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. Et voilà qu'en plus, on appelle à la rescousse la glorieuse histoire. Nous, on n'est pas n'importe qui. On descend d'ancêtres qui ont mangé la manne dans le désert. Excuse du peu, on appartient à une sacrée lignée. Donc on veut un signe à la hauteur de ça. Pas un petit signe de rien du tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Il nous faut quelque chose de concret, parce qu'on est quand même les descendants du peuple de Moïse, c'est pas rien. Est-ce que ça nous rappelle quelque chose nous concernant? Est-ce que nous ne cherchons pas nous-mêmes parfois dans notre ancienneté dans la foi, dans notre culture bien établie, dans notre histoire, des formes de légitimité à bon compte? Membre de l'Église depuis tant de temps, appartenant à telle association, à telle union d'Église depuis tant de temps, ça donne des droits quand même. Ma culture et mon identité, mon histoire, tout ça, ça devrait m'ouvrir quelques portes. Et Jésus ne va pas se placer sur le terrain de la compétition du plus grand signe possible. Et en fait, de reconnaissance de l'ancienneté de la culture et de l'histoire de ses interlocuteurs, il va faire très simple. Et c'est encore et toujours une histoire de pain. Je lis les versets 32 et 33. En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Alors Moïse, certes, votre glorieuse histoire, d'accord. Vous me citez le psaume d'Asaph qui rappelle cet épisode marquant du passé. Il leur a donné le pain du ciel à manger. Mais le véritable pain du ciel, ce n'est pas la manne du désert. Le véritable pain du ciel, c'est celui qui donne la vie. Ce n'est pas seulement ce moyen de subsistance qui était la manne dans le désert, c'est le pain qui donne la vie. Vous vous souvenez que la femme samaritaine avait dit à Jésus, à propos de l'eau, « Donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif. » Et surtout que je ne vienne plus la chercher tous les jours, au puits. Les interlocuteurs de Jésus, dans cet épisode, vont dire, ils vont répondre, parce qu'ils perçoivent tout ce qu'il y a de désirable dans ce pain de vie, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Et la réponse est la même. Si cela existe, alors on est preneur. Alors nous venons de voir ensemble le fil des événements. Nous avons vu comment, partant d'un pique-nique géant, la question de la nourriture et de ce qui nous nourrit vraiment va être posée par Jésus. Et ce sympathique partage d'un déjeuner sur l'herbe, sur les hauteurs du lac de Tibériade, où je n'ai rien apporté, mais d'où je repars rassasié de pain et de poisson, c'est un point de départ sympathique, certes, mais ce n'est que le point de départ d'un parcours exigeant et bien plus profond que je ne l'imaginais au début. Car dans le dialogue que Jésus conduit avec la foule, puis avec ceux issus de la foule qui l'ont suivi le deuxième jour, puis avec les Juifs jusqu'au cœur de la synagogue de Capernaum ensuite, Jésus pose des affirmations fondamentales. Elles vont toutes ensemble. Et elles vont provoquer un vrai décalage avec ses auditeurs, et même, on l'a vu, une forme d'écrémage à la fin, puisque tous ne resteront pas. Je suis l'envoyé de Dieu, première affirmation. Dieu est mon Père, et je fais sa volonté. C'est Dieu qui appelle et attire ceux qui viennent à moi. Je suis le véritable pain de vie, descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain a la vie éternelle. Ce pain, c'est mon corps, que je vais donner pour que le monde vive. Tout le message est là, mais il est costaud à recevoir à ce moment-là, il est massif. Alors, on ne va pas s'étendre sur le débat qui a agité l'Église pendant de longs siècles sur ce qu'on appelle la transsubstantiation, vous connaissez ce terme compliqué, ou qui voudrait que le pain et le vin garderaient les apparences du pain et du vin, fait de blé et de raisin, mais deviendraient, au moment de la communion, le corps et le sang du Christ, redeviendraient quelque part le corps et le sang du Christ. Et ainsi, nous mangerions ainsi effectivement de génération en génération le corps du Christ. Nous savons que ce n'est pas ce qu'ont retenu les réformateurs, dans leur grande majorité, même si ça a fait débat jusqu'au sein de la réforme. Et que pain et vin sont plutôt interprétés comme des symboles, comme des représentations du don que Jésus a fait de son corps et de son sang. Et finalement, ce que nous retiendrons plutôt, et nous retiendrions plus volontiers, c'est ce que Jésus dit lui-même. « Faites ceci en mémoire de moi. » Mais s'il est vrai que les paroles de Jésus ont de quoi perturber, Et c'est vrai, quand on lit les versets 55 et 56, quand même, « En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. » C'est vrai que c'est perturbant, c'est fort. Mais il faut aussi se demander si, dans le contexte que vient de vivre cette foule et ces gens, une image plus forte que celle-là aurait pu toucher les esprits. Car n'oublions pas que la veille, Jésus vient de répondre à ce besoin de manger d'un grand nombre de personnes. Le contexte est fort lui-même. Et Jésus part du concret et l'utilise. Alors qu'y a-t-il de plus essentiel de manger et de boire lorsqu'on est à bout de force? Et ce faisant, que permettons-nous à notre corps de retrouver, si ce n'est du carburant pour avancer à nouveau? Il y a dans le fait de manger et de boire quelque chose de plus essentiel. Les aliments que nous ingurgitons nous transforment parce que nous les transformons et nous les assimilons. Nous en faisons les briques de notre construction. Et c'est un peu ce que Jésus dit à travers ses paroles fortes. Jésus transpose. La vie, c'est le pain du ciel qui vous la donne. Ce pain vous transforme, vous rassasie durablement, et pas que pour un seul jour. Et ce pain, c'est moi. Et si vous venez à moi, vous serez rassasié et désaltéré. Jamais faim, jamais soif. Si vous venez à moi, vous êtes non seulement nourri, mais Jésus l'a dit précédemment, projeté dans la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Voilà, Jésus transpose. Avec une image que tout le monde peut comprendre. Simple, basique. Ça, c'est ce que dirait un rappeur célèbre. Pas si simple, pas si basique. Et je voudrais faire, pour terminer, trois courts développements ce matin. Croire est vraiment de notre responsabilité. Il y a tout d'abord un mouvement qui conditionne que nous soyons rassasiés. C'est que nous venions. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Oui, mais alors, comment concilier le fait de décider librement de venir vers Jésus avec le fait que c'est le Père et que c'est Dieu qui attire ? Personne ne peut venir à moi, à moins que mon Père ne l'attire. Comment comprendre ce passage? J'aurais plutôt tendance à le comprendre ainsi. Dieu désigne à nos regards et à notre cœur la personne de Jésus. Il attire notre attention sur lui, et c'est précisément parce que Dieu nous sensibilise à la personne de Jésus que nous pouvons venir vers lui. Dieu nous désigne Jésus pour que nous soyons capables en retour de reconnaître en lui la marque du Père. Dieu nous fait signe et nous demande en retour de croire, de voir en Jésus le signe de son amour. Lors du baptême, vous vous rappelez de ses paroles, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dieu fait ainsi le premier pas et nous rend sensibles à ce qu'il nous montre. Mais il y en a qui ne croient pas. C'est d'ailleurs ce que dit Jésus. Il y en a parmi vous qui ne croient pas, qui ne voient pas le Père à travers moi. C'est pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi à moins que cela ne lui soit donné par le Père. C'est le verset 65 dans le passage que nous étudions. Dieu nous appelle, il nous donne de venir vers Jésus pour le connaître, c'est son premier pas, c'est ce que Dieu nous donne, il se révèle à travers Jésus son Fils, et nous voyons bien que certains n'arrivent pas à le reconnaître à travers Jésus. Il y en a qui ne croient pas, il y en a qui choisissent de ne pas faire confiance, et qui choisissent finalement de dissocier Jésus du Père, de ne pas voir le Père à travers Jésus. Alors c'est ainsi que je comprends ce passage, et d'ailleurs pour une autre raison, je crois pouvoir affirmer que Dieu ne fait pas exception de personne. Plus loin, Jésus dira, et c'est dans Jean 12, 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Tous les hommes, pas quelques-uns, tous. Tous seront concernés, seulement tous ne croiront pas. Certains verront un héros, d'autres un idéaliste, d'autres un martyr, mais pas la main tendue du Père. Et nous en avons, nous aussi, dans notre entourage, dans notre environnement, des centaines et des milliers de gens qui ont une certaine considération pour Jésus, voire une certaine admiration, mais qui ne perçoivent pas à travers lui l'image du Père. Dieu attire. Nous croyons en celui qu'il a envoyé, ou pas. Deuxième développement, avons-nous, nous aussi, besoin d'autres signes pour croire? Quel signe miraculeux feras-tu pour que nous croyions en toi, avait-on demandé à Jésus après une démonstration la veille et qui était pourtant sans appel? Un miracle parmi les miracles. La foule en veut encore, du spectacle, du jamais vu, du toujours plus. Dans un autre évangile, celui de Matthieu, Jésus est confronté à cette demande du miracle de plus et du signe supplémentaire. C'est dans Matthieu 12, versets 38 à 40. Alors quelques-uns des spécialistes de la loi et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. » Il leur répondit « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. » Un miracle de plus n'y changerait rien. Vous ne verriez toujours pas le Fils de Dieu à travers ce miracle, mais un magicien, quelqu'un qui a des ruses et qui a des tours dans son sac. Vous avez décidé de ne pas croire, envers et contre tout, c'est ça le vrai sujet. Voilà ce que dit Jésus lorsqu'il annonce sa mort et sa résurrection, et cela, nous le savons, aujourd'hui ne suffit même pas. Ce signe de plus n'emporte même pas la conviction de ceux qui ont choisi de toute façon de ne pas croire. La question c'est pour nous, avons-nous besoin d'un autre signe pour croire en nous-mêmes dans notre quotidien? Le fait par exemple d'assister à la guérison d'une personne qui nous est chère serait suffisant pour nous convaincre de la bonté de Dieu. Mais alors, cette autre personne qui ne guérit pas, ce serait à contrario une raison de ne pas croire? Avons-nous toujours besoin d'un signe pour croire et pour faire confiance? Beaucoup d'événements dans notre vie quotidienne nous transportent sur les hauteurs, beaucoup d'autres nous font mal et nous descendent littéralement. Faut-il en faire pour autant des signes, c'est-à-dire des validations ou au contraire des affirmations de ce que Dieu promet? La vie de Job, à cet égard, est éclairante. Le succès, puis la douleur, ils sont présents tour à tour et en abondance. La souffrance est réelle, elle est même dite, elle est même criée par Job. Mais la confiance, au fond, elle est toujours là. Dans le quotidien de nos vies, nous pourrions surinterpréter parfois ce qui nous arrive comme étant un signe de bénédiction ou d'absence de bénédiction de la part de notre Père, en faisant le compte parfois du positif et du négatif, en pesant notre lot de joie et de peine, de nos succès, de nos échecs, pour finir par conclure que oui, nous sommes au bénéfice de la bénédiction de Dieu, ou nous ne le sommes pas. Alors on peut faire certes la balance de tout ça, et les amis de Job ne se privent pas de le faire. Mais où va-t-on tracer le trait de ce décompte pour décider que oui, ça vaut le coup de continuer de faire confiance à la promesse du Père, ou que non, ça ne vaut plus le coup? Où est le point de bascule? Est-ce qu'un miracle de plus va faire la différence vraiment? Avons-nous encore besoin d'un signe, d'une quantité de signes? Ou est-ce que nous acceptons de faire confiance à la parole donnée? Quand Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un », Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et on sait que Jésus dira à Thomas, qui lui réclamait de voir, « Heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. » Troisième et dernier développement, que signifie le fait de ne pas avoir faim jamais, de ne pas avoir soif jamais? Vous le savez, au sens physique, ne plus avoir faim, ne plus avoir soif, c'est plutôt mauvais signe. C'est être proche de la mort. La faim et la soif manifestent au contraire le besoin de notre corps d'être nourri et désaltéré. Et il faut sans doute souhaiter de continuer à ressentir ce besoin, car il est le signe d'un corps qui aspire à se renouveler et à continuer de vivre. Il manifeste cette pulsion de vie très puissante dès le plus jeune âge. Et pour avoir vu Tété Emma ces derniers jours, deuxième fille d'Amélie et de Tristan, je peux vous dire que la pulsion, elle est puissante. Sur un plan psychologique, cette fois, ne plus avoir faim, ne plus avoir soif, ça serait le signe de quoi? L'être humain est plein de désirs et de projets. Il a toujours faim et soif, par définition. Et heureusement, ne plus avoir faim, ne plus avoir soif, ça serait renoncer à demain. Ça serait s'installer dans une posture d'immobilité et quelque part renoncer là aussi à vivre. Alors, quand dans un sens spirituel, Jésus nous promet « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Est-ce finalement souhaitable? Est-ce quelque chose que nous pouvons réellement désirer? Est-ce que c'est le signe même de la vie? On pourrait comprendre ce passage, le verset 35, en le lisant trop vite de la façon suivante. J'ai fait la démarche de venir vers Jésus. Je peux dire que je me suis converti et donc, logiquement, je ne devrais plus jamais avoir faim, je ne dois plus jamais avoir soif. Or, ce n'est pas exactement comme ça que les choses se passent. Nous avons régulièrement besoin de venir et de revenir. Nous avons régulièrement à nouveau faim, à nouveau soif et besoin à la fois du pain de vie et d'être désaltéré. La promesse que fait Jésus à travers ce verset 35, c'est surtout la promesse de ne pas nous laisser sur notre faim et de ne pas nous laisser sur notre soif. Et nous pouvons lire de cette manière ce passage. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je ne laisserai pas sur sa faim celui qui vient à moi. Je ne laisserai pas sur sa soif. Nouveau dans la foi ou croyant estampillé comme expérimenté, dès le moment où je reconnais ma faim et ma soif, et notre présence ce matin est une façon de le reconnaître. Dès le moment où je reconnais ma faim et ma soif et que je me tourne vers celui qui est le pain de vie, envoyé par le Père, alors je sais que je serai rassasié et désaltéré à chaque fois. Alors je sais que je ne serai pas déçu. Et avoir faim et avoir soif, ce n'est pas un problème, au contraire, c'est un signe de notre volonté de vivre et de mieux vivre. Et ça serait le contraire qui serait inquiétant. Et que ce serait triste si nous étions rassasiés et désaltérés une fois pour toutes. En conclusion, ce passage a pu choquer les interlocuteurs de Jésus. Ce passage a même pu accréditer l'idée chez certains historiens des premiers siècles que les chrétiens décidément promouvaient des pratiques anthropophages, ce qui n'était évidemment pas le cas. Mon corps est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment une boisson. Cette parole est dure, qui peut vraiment l'écouter? Ont dit les disciples qui ont abandonné la partie à ce moment-là. Mais ce que leur annonçait Jésus à ce moment-là, c'était le don total de sa personne et de sa souffrance, plutôt que ce qu'ils attendaient. Ce qu'ils attendaient, nous le savons, c'était un triomphe absolu après une accumulation de signes toujours plus forts, les uns que les autres, et dont ils réclamaient la répétition. Pour nous aujourd'hui, retenons trois choses principalement. Notre part à nous, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé, lorsque l'Esprit de Dieu le désigne à notre cœur et nous attire vers lui. Retenons aussi que nous n'avons plus besoin d'autres signes, puisque nous avons un des plus clairs qui puisse exister, le signe de Jésus comme il le désigne par une image, à savoir sa mort et sa résurrection. Avons-nous encore besoin d'autres signes? Et retenons enfin que lorsque nous avons faim, lorsque nous avons soif, nous avons l'assurance d'être rassasiés et désaltérés lorsque nous venons vers lui, tout simplement parce que c'est sa promesse. Amen. Je vous invite, dans la perspective de cette méditation sur ce texte de Jean 6, à chanter le chant « À l'agneau sur son trône ». Et je vous invite pour cela à vous lever.